Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, on va vous montrer que la France a des talents, des patronnes, des patrons qui surmontent la crise. Et vous avez des idées pour préparer le monde de demain. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Allez, je vais vous révéler un énorme secret. Il ne s'est jamais vendu autant de vérandas qu'en ce moment en France. Pourquoi ? Et à quoi ressemblent ces vérandas ? Eh bien, on en parle jusqu'à 14h avec le leader français Akena, un des grands noms basés en Vendée.
À la une, on reste à l'extérieur, des serres de jardin sur mesure. À la maison, elles nous viennent, elles aussi, de Vendée, la fondatrice de Jardin Couvert. Et notre invité, les détails d'ici quelques minutes.
Alors parmi ces serres, tiens, qui font partie de l'histoire, le jardin des serres d'Auteuil à Paris. Ce sera notre saga du jour à 13h30.
Chaque jour dans la France bouge, nous écoutons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Radio Trombine. Pour conserver les voix et les souvenirs de nos proches, les détails de ce projet à 13h45.
Et puis demain au travail, développer la réinsertion professionnelle à travers les métiers gourmands, tiens comme le chocolat. C'est très sérieux et ce sera à découvrir en fin d'émission.
Et oui, c'est ça, la France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France et on va le voir encore aujourd'hui dans ce secteur, notamment des vérandas. On s'occupe de nos maisons, de nos terrasses, quand on a chance bien évidemment d'en avoir. Et on va parler de tout cela avec notre grand témoin du jour.
Bonjour Dany Rabillet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Akena. Akena, le spécialiste des vérandas qui existe depuis 40 ans, entreprise familiale, qui a connu des périodes compliquées, mais vous êtes là, et bien là, et nous sommes ravis. 400 personnes chez Akena, vous produisez tout en France, vous avez une usine en Vendée. Agrandir sa maison, bénéficier d'une pièce supplémentaire, profiter d'un apport de lumière, des raisons qui nous poussent de plus en plus à passer le pas de la véranda. Alors Dany Rabillet, je crois que vous allez nous dire que ça va très fort en ce moment.
Oui, effectivement, l'avant-crise et l'après-crise Covid a donné envie à plein de particuliers d'aménager son extérieur ou son intérieur de maison. Et le boom depuis janvier 2020 est assez important.
Mais quand vous dites boom, ça veut dire quoi ?
C'est plus 30% d'activité. Alors un plus 10 jusqu'à fin 2019 et un plus 30 depuis janvier 2020.
Et donc on peut le dire, il ne s'est jamais vendu et construit autant de vérandas qu'en ce moment en France.
Je confirme, avec les membres du syndicat avec lesquels on échange par moment, tout le monde est sur la même tendance en ce moment.
Et vous êtes prêt à faire face à cette demande ?
Alors on s'organise, on a la chance d'avoir un peu de délai entre le moment où le client signe, obtient ses autorisations administratives, prépare sa terrasse, la maçonnerie, et le moment où on fabrique et on pose. Donc on a 5 à 6 mois à peu près pour anticiper la charge à venir. Mais c'est un peu compliqué quand même de trouver en si peu de temps le personnel, le temps de former, etc.
Mais c'est une tendance qui était déjà bonne ou alors elle s'est elle a totalement explosé à l'aune de cette crise ?
Alors, elle était bonne, mais stable depuis 4-5 ans. Et on a vraiment eu un pic du mois de mars 2020 à aujourd'hui.
Et qui ne se dément pas. Là, les gens continuent de vous appeler en disant « Bon, allez, on va peut-être passer encore un été de plus à la maison, donc il nous faut une véranda ?»
Non, ça ne se dément pas du tout. On est toujours avec des chiffres de demande journaliers très importants.
Mais donc, ça signifie que cette crise, Dany Rabillet, vous apporte de nouveaux clients, une clientèle qui peut-être ne serait jamais venue chez vous, chez Akena.
Complètement. J'ai une anecdote d'une connaissance il y a un an qui m'a fait venir pour un projet potentiel. Et en fait, le projet, il n'était pas potentiel. Il était imminent. Et il m'a dit, si on m'avait dit il y a 2 mois que je ferais une véranda, je ne l'aurais pas cru. Donc ça a été un des messages en tout cas qui ont fait chez nous, qui nous ont fait prendre conscience de ce niveau d'activité qui allait arriver.
Mais pourquoi la véranda ? Pardonnez-moi cette question, on y fait quoi dans une véranda ? C'est pour agrandir une maison ? C'est pour quoi faire ?
Alors, on agrandit la maison, on se fait une pièce plaisir surtout, dans laquelle on prend le petit déjeuner, on rentre le midi ou on mange le midi pour une clientèle de retraités. Et puis dans laquelle on prend la lumière le soir au printemps. Donc il y a plusieurs usages. L'extension habitable, des gens font leur cuisine à l'intérieur, refont l'aménagement de la maison. Et puis d'autres en font une pièce d'agrément printemps-automne.
Mais pour que la demande s'accélère à ce point-là, les gens se disent peut-être que tendanciellement je vais passer beaucoup plus de temps chez moi. Parce qu'à un moment cette crise va bien s'arrêter, à un moment on va bien repartir quand même en vacances, on va bien retourner au restaurant et on sera peut-être moins chez nous. Mais les gens se disent tiens, je me suis réattribué ma maison et j'ai envie d'en profiter encore plus. C'est ça la raison ?
Clairement, je pense qu'on passe de meilleurs moments dans une pièce vitrée, lumineuse, que dans un salon avec une petite ouverture. Donc, on a eu tendance à se dire que c'était les vacances à la maison.
On fait comment pour avoir une véranda, justement? Parce que vous parliez de délai, apparemment, c'est assez long. Hein, je crois environ 6 mois, il faut faire des demandes. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, apparemment.
Exactement, il y a des autorisations administratives à obtenir en fonction de là où on habite, de la limite avec son voisin, et puis de l'esthétique, des pentes. Enfin, donc il y a tout un travail à faire par nos équipes pour vérifier ce qui est réalisable chez le client.
Alors elle ressemble à quoi cette véranda? C'est comme le disait Elisabeth Assayag, ce sont de nouveaux clients qui en partie viennent vous voir. Est-ce que ça change la demande ou on est sur quelque chose de très traditionnel? Dites-nous un peu, c'est quoi la véranda moyenne en France, hein?
Alors la véranda moyenne aujourd'hui c'est 20 mètres carrés, des couleurs assez modernes, autour des gris, gris clair à gris foncé, une pièce plutôt bien isolée. Puisque, je vous le disais à l'instant, la volonté de faire une cuisine, d'y vivre et de prendre du petit déjeuner au repas du soir, il faut un niveau de performance thermique important.
Et pourtant, ça coûte cher, parce que quand vous dites la demande arrive, je crois que c'est 15 000 euros environ.
Entre 15 et 20 000 euros à peu près.
Donc, ce n'est pas la dépense qu'on va faire comme ça en se disant « Tiens, si je faisais une véranda, c'est assez coûteux quand même.
» Oui, mais c'est au prix au mètre carré par rapport à une extension traditionnelle, ça reste très abordable. Et puis, on en fait vraiment autre chose. C'est la pièce la plus lumineuse de la maison.
C'est la pièce la plus lumineuse de la maison. On va continuer à en parler, à en rêver, hein, de ces vérandas avec vous, Dany Rabillet. Vous êtes le directeur général d'Akena. Vous êtes notre témoin du jour et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France et qu'elle profite de ses intérieurs. C'est vrai que s'il y a bien une tendance qui semble se dégager de ces confinements, c'est le plaisir que l'on a eu, beaucoup d'entre nous, à se réapproprier nos intérieurs, se réapproprier également nos jardins. Et si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous avez sûrement entendu que l'on n'a tout simplement jamais construit autant de vérandas qu'en ce moment en France. Et semble-t-il, tout ce que l'on en est, on en a toujours beaucoup envie. Et on parle de cela notamment avec Dany Rabillet, qui est le directeur général d'Akena.
Et après plusieurs confinements, le retour à la terre a trouvé de très nombreux adeptes. On a davantage envie de cultiver ses fruits, ses légumes. D'ailleurs, les chiffres d'affaires sont historiques dans plusieurs jardineries et pépinières de France. Nous sommes tous, en quelque sorte, initiés au jardinage. On a pris le temps et vous l'avez sûrement constaté, vous aussi, Fabienne Fouchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Jardin Couvert. Jardin Couvert, ce sont des petites serres que vous proposez pour les particuliers. Cette entreprise, c'est la vôtre. Oui. Et celle de votre mari, vous avez repris tous les deux une petite usine de 15 personnes. Une usine qui fabriquait à l'origine des structures métalliques pour des serres. Comment en êtes-vous venue aux particuliers, Fabienne Fouchard?
Eh bien, tout simplement parce que nous avions de la demande. Et nous n'étions pas tout à fait organisés pour y répondre. Donc on s'est dit qu'on allait augmenter, améliorer la gamme qui existait quand nous avons racheté l'usine.
Oui, parce qu'à la base, les serres, on les connaît tous, c'est les serres qu'on utilise pour des professionnels.
Hein.
C'est grande structure, il faut de l'espace. Et vous avez eu de la demande de particuliers? Ils vous demandaient quoi à cette époque-là, les particuliers?
Des petites serres, des petites dimensions, des petites largeurs. Donc comme ils connaissaient notre entreprise, on faisait des constructions pour des horticulteurs et maraîchers. Une petite gamme existait sur des toutes petites dimensions, mais qui était assez restreinte.
Là, l'idée, c'est que vous avez accompagné le développement des potagers à la maison. À l'époque, c'était une petite partie des Français qui faisaient leur potager, puis c'est devenu à la mode, ne serait-ce que pour être sûr de mieux manger. Et vous avez accompagné totalement ce développement-là.
Tout à fait. Et on a pu, au fil du temps, améliorer la gamme, l'agrandir, permettre à nos clients de composer eux-mêmes leurs serres. Et c'est la force de notre site internet. Quand vous arrivez sur Jardin Couvert, vous choisissez la largeur, la longueur, le type de porte, le type d'option. Et au fil du temps, en fait, on écoute nos clients. Mmh. Ils nous font des demandes, on les écoute et on essaie d'adapter et de développer toujours.
Donc c'est du sur-mesure complètement?
Alors oui et non. On a une gamme où on présente quand même déjà 6 largeurs différentes pour répondre à un maximum de configurations, puisque tous les terrains ont des tailles différentes. Et ensuite, le client, il peut nous appeler, il peut concevoir. On accepte tous les dossiers. En fait, on fait de la dentelle.
Vous faites de la dentelle, mais quand on entend sur mesure, on se dit « Oh là là, ça doit être hors de prix, cette histoire !» Comment on fait pour que ça reste abordable?
Eh bien, nous, nous avons la chance de faire du direct. Nous avons notre petit outil de production. Et en fait, il est assez flexible et autonome. Donc, on peut répondre justement à ce type de demande. Alors, bien évidemment, ça passe par un projet, un dessin, un chiffrage. Le client accepte ou pas, mais au final, on se rend compte que la plupart des dossiers aboutissent.
Vous avez une gamme de prix accessible pour tous les porte-monnaies?
Oui, parce qu'en fait, la plus petite dessert, elle fait 2 mètres de large. La plus grande, elle fait 6 mètres de large. Chacun, effectivement, a un budget au démarrage.
Donc, ça va de 400 euros, je crois, à 3000 euros, c'est ça environ ?
Voilà, ça va être ça un petit peu. Mais on est surpris. Toujours très surpris de voir que les jardiniers amateurs partent des fois dans des surfaces complètement incroyables. Ouais. Et nous-mêmes, les premières fois, on était... Voilà, 60 mètres carrés, vous êtes sûr, ça va vous demander énormément de temps de travail sous la serre. Et au final, ça fonctionne très bien.
Alors, on le disait, on n'a jamais autant fabriqué et vendu de véranda qu'en ce moment en France. C'est pareil pour les serres de jardin ?
Tout à fait, parce que notre volume de serre a été multiplié par 2 sur l'année 2020.
Encore, ah ouais, sur l'année 2020. Donc oui. Là aussi, il y a eu un effet confinement, un effet crise. Comment ça s'est passé au mois de mars, avril dernier ? Vous avez vu ça comment arriver ?
Eh bien, en fait, quand on a été obligé de s'interroger pour savoir si on maintenait ou pas l'outil de production, et au final, on a réussi à le maintenir en place. Et là, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, on s'est organisé pour pouvoir répondre à cette demande. Ça a été un petit peu un
Mais s'organiser, ça veut dire quoi ? Parce que c'est-à-dire que quand on double la production, c'est quand même impressionnant. Il faut du personnel pour. Vous disiez, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Bah, y a un moment, ce que vous ne faisiez pas quand vous ne répondiez pas au téléphone, vous ne pouviez pas le faire après. Comment on fait tout simplement pour s'organiser ?
Eh bien, effectivement, on embauche. Nous, on est passé quand même de 30 personnes à 48 personnes en 2 ans. Donc, on était déjà sur une tendance de croissance. Donc, on l'a accéléré. On a embauché du personnel pour être à la production. La production, on l'a multiplié en 2 équipes, équipe du matin, équipe du soir, pour optimiser les outils de production. Et puis, on a surtout énormément utilisé nos sites internet, puisqu'on a un délai de retour et de réponse très fort par mail et très rapide.
Là, ce n'est que le début d'une certaine manière, parce que vous, ça vous permet de gagner quelques années de développement. Mais votre marché, celui du potager, celui des serres à domicile, du jardin... Vous êtes sûr qu'il est parti pour des années, là ?
C'était déjà une tendance qui était bien inscrite sur les dernières années. Et là, elle s'est renforcée.
Dany Rabillet, vous êtes le directeur général d'Akena. Alors, on ne le sait pas toujours, vous venez de Vendée. Alors, vous, Fabienne Fouchard, pour Jardin Couvert, vous êtes dans le Maine-et-Loire, du côté d'Angers. Oui. Je crois que vous allez aussi ouvrir une usine prochainement.
Oui, parce que le développement fait que nous avons besoin de pousser les murs. Et là, nous avons donc un projet sur 2023 pour déménager l'usine sur une surface plus grande de 10 000 m².
Alors, c'est les Pays de la Loire qui sont d'une certaine manière à l'honneur aujourd'hui. Oui. Vous, entre Angers et Saumur, on fait 1h30 de route. On va du côté de la Vendée avec vous, Dany Rabillet, le directeur général d'Akena. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que disait Elisabeth Assay, on ne le sait pas beaucoup. Mais c'est l'un des départements les plus dynamiques de France, au point que vous êtes incapable de recruter en ce moment. Il n'y a quasiment pas de chômage chez vous, donc de toute façon...
Alors incapable, on est obligé de s'adapter, effectivement. On a des campagnes de recrutement depuis un peu plus d'un an.
Et alors ?
Et on est en train de créer une école de formation, en fait. Voilà. Puisque le bassin de la menuiserie est très important dans nos secteurs géographiques. Les gens ont tous du travail, effectivement, vous venez de le dire. Et donc à nous de prendre des gens qui n'ont pas forcément le profil. Qui ont envie de travailler dans
des produits... Donc là, si les gens nous écoutent de façon concrète, ils sont un petit peu plus loin de la Vendée, mais ça les intéresse de travailler dans la menuiserie et notamment dans la véranda. Ça ouvre quand cette école ? Ça va se former comment ? Vous cherchez combien de personnes ?
Alors l'école va prendre 6 mois à s'ouvrir en interne. En revanche, les formations ont déjà commencé auprès de certains. Et puis on a 10 postes à prendre pour début juillet sur une deuxième usine qui ouvre. Et 20 en septembre, uniquement en agent de fabrication et menuisier.
Et là, vous le faites parce que vous n'arrivez pas à recruter.
Exactement.
Vous êtes vous-même obligé de...
On déploie des membres de nos équipes pour former les nouveaux arrivants.
Fabienne Fouchard, vous êtes la fondatrice, la dirigeante de Jardin Couvert. Vous aussi, recrutement à fond cette année ?
Oui, alors on a surtout accentué en interne sur le service commercial et notre service web qui est intégré.
Oui, parce que
maintenant.
Tout se fait par sur Internet hein, quand
oui,
on veut faire appel à vos services.
Notre boutique c'est quand même elle qui nous permet d'avoir un maximum de contacts avec tous nos internautes en France ou en Europe. Donc c'est une boutique en ligne qui doit vraiment répondre à la demande. Donc, on a vraiment intégré ce service-là. Et puis, on a aussi intégré des nouvelles personnes à la production, sur le service irrigation, enfin, les différents corps de métier qui composent notre activité, oui.
Dessert sur mesure pour les particuliers, c'est ce que vous faites, hein, Fabienne Fouchard. Merci d'être venue dans La France Bouge.
Merci
vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Jardin Couvert.
Et Dany Rabillet, le directeur général d'Akena. Vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France. Hein, et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, on parle de cette envie que beaucoup d'entre vous ont, c'est-à-dire de se réapproprier son jardin, d'agrandir la maison pour mieux profiter encore de son intérieur. Et véritablement, là-dessus, la crise du coronavirus a été un accélérateur. Et on en parle depuis le début de notre émission avec Dany Rabillet, qui est le directeur général d'Akena. Vous êtes le leader en France de ce marché des vérandas. Alors, on a vu que ça marchait très fort, on a vu que vous vous aviez du mal à recruter, que vous lancez même du coup une école de formation. Mais ce n'est pas votre seule difficulté en ce moment. C'est-à-dire que pour vous, vous avez beaucoup de chance et pas mal d'embûches. C'est quoi l'une des embûches principales? C'est le manque des matières premières. On en parle beaucoup dans l'automobile notamment, mais vous le vivez aussi. Est-ce que de façon très concrète, vous passez commande à vos fournisseurs, mais vous ne savez pas ce qui va arriver en nombre de vitres, en aluminium, enfin bon, ce dont on a besoin pour fabriquer une véranda?
Alors, on n'est pas encore soumis à cette pénurie, mais on la voit arriver. Donc, on anticipe nos commandes de 2-3 semaines seulement, puisque les fournisseurs de matières premières, à juste titre, font en sorte de ne pas suralimenter chaque client pour créer une pénurie supplémentaire.
C'est-à-dire que de façon concrète, si vous aviez envie de vous dire « Allez, hop, on est sûr d'avoir un carnet de commandes pour les 2 prochaines années, j'achète tout ce qu'il faut d'un coup d'un seul », là, votre fournisseur vous dit « Hop, 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 il faut partager ».
C'est effectivement pas possible aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens non plus humains ou pour alimenter toute la chaîne d'un marché qui est important.
Donc face à cette incertitude, on peut le dire, liée à la chaîne de production, est-ce que ça vous fait changer les prix des produits, par exemple?
Alors, c'est pas trop l'incertitude de la production, c'est plutôt la hausse de certaines matières premières qui pourraient, si elles durent, nous obliger à augmenter nos tarifs.
Mais alors, ça signifie quoi? Vous prévenez vos clients? Vous faites comment?
Alors, non, nos engagements pris avec les particuliers sont tenus. C'est-à-dire que le client qui a acheté en décembre 2020 une véranda à 15 000 euros, même si la matière, au moment où on doit produire, est devenue plus importante pour nous, on assume le prix de vente du moment.
Mais est-ce qu'en ce moment, vous vendez un petit peu plus cher parce que vous vous dites, oula, dans 6 mois, ça... C'est-à-dire, typiquement, Elisabeth et moi, on a envie de se faire une véranda.
Mais ça donne envie, hein, franchement.
Ça donne envie, bien évidemment.
Dépêchez-vous alors.
Bon, on va se dépêcher. On vient chez vous là, aujourd'hui, et vous le savez que dans 6 mois, ça va coûter un peu plus cher. Donc, est-ce que vos prix ont un petit peu augmenté?
Là, au 1er juin, on a 2% qui doivent arriver sur nos tarifs de véranda. Pour anticiper un petit peu cette hausse de matières premières.
Surtout que vous avez un autre souci, ce sont les corps de métier avec lesquels vous travaillez. Parce que les maçons, s'il y a bien aussi une profession qui travaille en ce moment, les maçons, les peintres et enfin bon, toutes ces professions, c'est dur?
Alors c'est dur, effectivement, la chaîne des travaux pour le particulier, c'est le permis. Donc il y a plus de permis aussi à l'urbanisme en ce moment, dans les communautés de communes ou dans les mairies. Et puis les maçons sont débordés depuis 6 mois également. Mmh. Peuvent aussi avoir ce risque de pénurie de matières premières. Et effectivement, on ne maîtrise plus du tout la chaîne délai globale du projet.
Donc là aussi, on assiste à un chamboulement de votre métier lié à la crise. Vous, comment vous voyez les choses? Vous pensez que ça va perdurer? Il y aura un effet crise dans le temps?
Alors, on pense que ça va se réguler un petit peu, puisque c'était quand même très très fort. Néanmoins, l'expérience vécue par les gens chez eux pendant presque un an, avec le télétravail ou avec l'obligation de rester chez soi, a donné envie quand même de passer de meilleurs moments chez soi. Et par l'aménagement extérieur, par la véranda, par la pergola, on considère qu'il va y avoir un niveau, en tout cas, de demande qui va rester élevé dans les mois et années qui viennent.
Et justement, vous parlez des pergolas, vous le faites sûrement exprès, parce que vous dites qu'ils sont bien gentils, mais ils ne parlent que de mes vérandas. Ce qui marche aussi très très fort en ce moment chez vous, c'est une innovation que vous avez lancée il y a de ça quelques années, mais qui se développe maintenant, ce qu'on appelle les pergolas bioclimatiques. L'idée, c'est toute simple, c'est-à-dire que les fameuses pergolas qu'on connaît maintenant, elles économisent la chaleur, elles la restituent, puis on ne crève pas de chaud dessous.
Exactement, enfin, elles sont équipées de lames orientables qui font que le particulier peut réguler l'arrivée de lumière et l'arrivée de chaleur, alors à la fois sous sa pergola, mais aussi dans la maison, derrière les menuiseries, derrière les baies vitrées.
Daniel Rabillet, quand on parle de véranda, est-ce qu'on parle forcément, il faut forcément avoir une maison individuelle? Est-ce que je peux faire une véranda, pardonnez-moi de la question, hein, mais sur mon balcon par exemple?
Alors généralement sur un balcon, il y a un syndic de copropriété qui va falloir et par lequel il faudra passer pour obtenir les autorisations, mais effectivement...
Mais c'est possible.
C'est possible.
On sent la question très intéressée d'Elisabeth Assaya qui prépare ses travaux à venir. On parlait tout à l'heure par exemple des jardins, du besoin de potager. Est-ce que vous aussi, chez Akena, c'est des activités que vous allez développer? Parce que je crois que vous êtes lancé sur les abris de piscine et ce genre de choses. On avait reçu le patron des Joyaux, qui est le leader français de la piscine, qui lui aussi nous disait, c'est simple, j'en ai jamais fabriqué et vendu autant. Du coup, ça doit booster également tout ce marché chez vous?
Effectivement, le marché de l'abri de piscine est très fort. Je crois que le boom des piscines en 2020 a été très, très, très important, sûrement encore plus important que celui de la véranda. Et notre activité abri de piscine aussi est très dense.
Alors, chaque jour dans la France Bouge, Dany Rabillet, on se pose un petit peu, on se pose un instant pour découvrir l'histoire d'un endroit, d'une marque ou d'un produit qui ont traversé des générations et qui font évidemment la fierté de notre pays. Aujourd'hui, je vous propose de rester à Paris. On va aller découvrir un jardin botanique qui existe depuis le 19e siècle.
Si je vous dis le jardin des cerfs d'Auteuil, vous connaissez, Elisabeth?
Ça fait rêver et je connais un petit peu, oui.
Ouais, c'est très très joli, effectivement, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. On est juste à côté du Bois de Boulogne, on est juste à côté de Roland-Garros. Le jardin des cerfs d'Auteuil, c'est notre saga du jour racontée par notre botaniste en chef, Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Pour fleurir les jardins publics de la capitale, Paris a besoin de cultiver des fleurs, des plantes, des arbres. C'est le rôle des jardins botaniques. À la fin du 19e siècle, il y en a quatre. L'Arboretum et le Parc Floral dans le bois de Vincennes, le Parc de Bagatelle dans le bois de Boulogne et surtout le Jardin des Serres d'Auteuil au sud-ouest de la capitale, juste à côté de ce qui deviendra le stade Roland-Garros. Créé en 1899, le jardin regroupe 5 immenses serres qui abritent en tout 5000 espèces différentes. Jean-Christophe Lucas, conférencier de l'Agence d'écologie urbaine de la ville de Paris.
Vous avez déjà le grand palmarium. Alors dans ce grand palmarium, là l'idée c'est de montrer un foisonnement de ces plantes tropicales. Et là vous allez avoir beaucoup de palmiers, beaucoup de plantes avec des très grands feuillages, des ficus par exemple. Vous êtes complètement submergé par ces feuillages. Si vous continuez encore un petit peu, on peut voir une plante qui vient d'Amérique du Sud, à côté une plante africaine ou une plante d'Asie du Sud-Est. On fait 20 mètres et on change vraiment de secteur. On peut voir aussi des plantes qui nous nourrissent, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, comme un manguier, comme un capoquier par exemple, voyez, comme un goyavier.
Dans les années 1960, la ville de Paris créait un jardin botanique à Rungis, plus moderne et plus grand, il fait près de 44 hectares. Mais alors, que faire des serres d'Auteuil? Hors de question de les détruire, décision est prise de les garder ouvertes au public et d'en faire un lieu de découverte.
Et Auteuil va petit à petit être reconverti avec l'accueil de toutes les collections botaniques de la ville de Paris. Collection en extérieur, collection en intérieur. On a pris l'habitude de ramener en fait des plantes, de les étudier. Ces plantes peuvent être des nouvelles sources d'alimentation, peuvent servir pour un nouveau médicament, peuvent être simplement pour l'ornement. Il y a tout un enjeu scientifique aussi. Maintenant, on est peut-être plus dans une idée aussi de... c'est une promenade, comment dire, c'est très esthétique de voir tous ces végétaux.
Quatre nouvelles serres ont été construites en 2019. Une serre, un continent. L'idée, c'est de faire voyager les visiteurs.
Là, on a un parcours. On a groupé les plantes en fait par continent. Si vous allez dans la partie qui est consacrée à l'Afrique, on a mis en avant toutes les plantes qui sont liées avec des cérémonies, avec des choses comme ça. Donc il y aura des explications en fait sur ces plantes-là. Si vous continuez à avancer, vous serez en Asie. L'ylang-ylang sera un petit peu notre plante vedette.
Aujourd'hui, à cause du Covid, les serres sont fermées au public car l'environnement chaud et humide est malheureusement un endroit favorable à la propagation du virus. Mais le jardin, lui, est ouvert. Alors, avec l'arrivée des beaux jours, vous pouvez toujours vous y balader gratuitement et apercevoir les immenses palmiers dont les plus grands culminent à 16 mètres.
Et c'était la saga du jour racontée par Quentin Payet. Nous sommes aujourd'hui avec Dany Rabier, qui est le directeur général d'Akena. Est-ce que de grands projets comme ça, c'est des choses qu'Akena pourrait faire ou vous, c'est uniquement ou principalement le marché du particulier?
Ouais, c'est principalement le marché du particulier. On va s'arrêter sur du 100 mètres carrés grand maximum pour couvrir des piscines. Mais au-delà, c'est plus notre neuvaine.
De Dany Rabier, en tout cas, vous êtes le directeur général d'Akena. Vous allez rester avec nous parce que là, maintenant, vous allez porter une casquette de coach. Vous allez, si vous le voulez bien, écouter et conseiller une entrepreneur qui se lance dans un projet.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle construit des vérandas, cette France. On en parle depuis le début de cette émission. Il ne s'est jamais construit autant de vérandas qu'en ce moment. Et on en parle notamment avec Dany Rabier, qui est le directeur général d'Akena. Et c'est le moment, tiens, de découvrir justement les pépites de demain, hein, devant l'œil attentif de notre grand témoin, puis avec l'oreille également très attentive de Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et on vous le montre chaque jour dans la France bouge, des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que peut-être qu'il n'avait rien à voir là-dedans auparavant. Là, aujourd'hui, il s'agit d'un projet né en février 2020. Tiens, ça tombait bien, Margot de Raté. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes bordelaise et vous êtes la fondatrice de Radio Trombine. On a bien aimé le nom déjà,
oui, c'est
avec
très
Emmanuel.
Bien trouvé.
Avant Radio Trombine, bah vous aussi, hein, vous n'étiez pas destinée à être entrepreneuse puisque vous étiez avocate fiscaliste. Mais vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat avec Radio Trombine. Ce sont des portraits sonores destinés à conserver les souvenirs et surtout les voix de tout ce que l'on aime. On va vous laisser nous dérouler votre pitch. C'est parti, vous avez une minute.
Merci. Alors, Radio Trombine est née de l'envie d'enregistrer la vie de mes grands-mères pour pouvoir les conserver ensuite et les réécouter. Radio Trombine réalise des portraits sonores. Ce sont des enregistrements audio de nos proches pour conserver leurs souvenirs, leurs voix et leurs émotions. C'est par exemple l'enregistrement de l'histoire de votre grand-mère, un portrait collectif avec la voix de tous vos amis et proches pour un anniversaire, ou encore l'enregistrement de jeunes parents qui racontent à leur enfant qui vient de naître les souvenirs des premiers moments partagés ensemble. Radio Trombine enregistre à domicile ou à distance. Chaque portrait est une création sonore sur mesure, accompagnée de musique pour mettre en valeur les émotions. Et les portraits vont de 90€ à 590€ selon le format choisi. Depuis un an, Radio Trombine, c'est une cinquantaine de portraits sonores réalisés, des clients très très heureux et très émus. Alors si vous aussi, vous avez envie d'offrir un cadeau unique, durable et personnalisé, je vous invite à aller sur le site de Radio Trombine. Et je vous remercie.
Et ben voilà déjà.
Je suis conquise. Hein.
Ah bah oui, ah, vous l'étiez déjà avant.
Ouais, ouais, non, je trouve vraiment c'est une très 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 bonne idée.
Mais du coup, qui fait les portraits? C'est vous qui faites tout pour le moment?
C'est moi qui fais tout, oui. L'enregistrement, le montage, le mixage.
Et voilà. Quand vous parlez de musique, vous vous renseignez sur la musique qu'aiment
les
personnes,
goûts musicaux
des personnes interrogées.
Mais ce sont des musiques libres de droit.
Eh bien déjà, bravo en tout cas pour tout ça. Et puis Nathalie Carré, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, mais déjà un bon point d'office parce qu'elle a pensé à donner les prix.
Ah oui, c'est vrai, bravo. Bravo Margot. Nathalie, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Margot. Et désolée Emmanuel, vous n'avez plus rien à faire.
Moi c'est
bonjour,
pas grave, Emmanuel. Vous savez, moi je suis en congé, c'est encore mieux comme ça.
Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui épluche hein, les dossiers chaque jour des candidats des pitchs du trophée Europe 1 à La France Bouge. Nathalie, quelles sont les forces et s'il y en a, les faiblesses de Radio Trombine?
Alors déjà, le site est très agréable, très complet, très bien expliqué. On comprend vraiment bien ce que vous proposez. Puis surtout, on ressent vraiment les émotions qui sont transmises par vos portraits lorsqu'on écoute les extraits. Et c'est ce qui peut faire comprendre aux internautes que ce qui fait le résultat, ce n'est pas seulement le message, mais aussi la façon dont vous le mettez en valeur par le montage et l'ambiance sonore. Et puis effectivement, le prix qui est adapté en fait à des cadeaux collectifs pour des moments de vie importants. Alors, quelques points améliorés, ils sont plutôt des suggestions. Pour présenter vos offres et vos tarifs, vous avez pensé à plusieurs cas d'usage, hein, anniversaire, l'arrivée d'un enfant, une pensée, etc. C'est super, mais vous aurez toujours le cas de celui qui veut faire autre chose. Alors, il y a la possibilité de vous contacter pour un devis, mais les gens aiment bien savoir où mettre les pieds.
Pour une demande en mariage, par exemple.
Par exemple,
ah
bah
oui,
ça. Et 5 hein minutes, 90€, nickel.
Et ça reste éternel.
Alors, peut-être que plutôt que de prendre tous ces cas d'usage, vous pourriez peut-être proposer un prix pour 15 minutes d'audio monté et prêt à écouter, par exemple. Comme ça, ben voilà, on additionne après les minutes de ce qu'on veut, puis on a à peu près notre tarif avant de vous appeler. Un petit détail, mais le mot portrait, c'est peut-être un peu réducteur et pas assez en lien avec votre phrase superbe que vous avez sur votre site. Les histoires naissent du désir d'être racontées et vivent du plaisir d'être écoutées.
Et puis, ah oui, une suggestion. Dans le pitch,
et ça, je trouve que c'est une excellente idée.
Elle
en
est
plus.
Magique. Elle
mais
est
je trouve magique, que vous avez phrase. Raison sur le fait de dire que ça peut ne pas être que le portrait.
Que des portraits,
parce que
c'est
parfois,
des
juste envie de raconter le, je sais pas, la rencontre des parents racontée par les grands-parents ou les parents qui racontent à leurs enfants comment ils se sont rencontrés. Moi, je suis d'accord avec vous parce que quand je suis allé sur le site, j'ai pensé exactement comme vous, Nathalie.
Ah bah alors Emmanuel, on est connecté. Puis une dernière suggestion pour faire aussi voilà, en lien avec notre émission, on a eu Reliez-vous dans La France Bouge. Mmh. Peut-être qu'il y a des synergies, car eux, ils font des albums photos pour les mêmes situations que vous. Peut-être que vous pourriez fusionner les images et la voix, j'en sais rien, et conquérir le cœur de plus de personnes.
Conquérir le cœur de plus de personnes, comme c'est joliment dit Nathalie Carré. Margot Doraté, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des bonnes suggestions, notamment les 15 minutes de portrait, ça pourrait être pas mal, ça.
Oui, c'est une très bonne idée.
Pour pas réduire l'offre.
Tout à fait, ben, je vais réfléchir justement pour représenter mon offre. Et puis pour Reliez-vous, nous sommes en contact déjà avec la fondatrice.
Voilà, vous entendez Nathalie, voilà. Ils sont en contact.
Parfait.
Mais vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Parce que du coup, vous le dites, vous êtes toute seule. Donc si là, après l'émission, il y a ne serait-ce que 40 personnes qui vous appellent, tout de suite, la machine va chauffer un peu trop. Comment vous comptez vous développer demain?
Demain, je compte me développer peut-être déjà en fondant une équipe. Ce serait sympa. Et aussi peut-être en ouvrant sur le B2B. C'est une des pistes.
C'est-à-dire que là aussi, faire des portraits d'entreprise.
Des portraits d'entreprise, exactement.
Akena, par exemple, vous aurez raconté son histoire. Vous fêtez vos 40 ans, justement, cette année. Donc, c'est parfait.
Histoire à raconter. Enfin,
ça s'appelle Marque de famille.
c'est un podcast sur un repas, mais on peut faire les deux. Dany Rabillet, vous êtes donc le directeur général d'Akena. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet?
Je trouve l'idée très très belle et j'avais une petite question sur comment vous enregistrez. Il faut se déplacer chez vous à Bordeaux aujourd'hui, c'est vous qui vous déplacez?
Alors, je me déplace au domicile avec mon micro et je peux aussi le faire à distance. J'ai développé ça pendant le confinement, donc avec les outils qui permettent de le faire à distance.
Et c'est facile à faire pour des personnes peut-être qui sont plus âgées, qui ne sont pas forcément
à distance
au
c'est
point.
Plus compliqué, il faut quand même un ordinateur. Mais sinon, je viens avec mon micro et mon matériel d'enregistrement chez les personnes.
Margot Doraté, si on vous dit dans 5 ans, vous vous voyez où dans 5 ans avec Radio Trombine?
Je me vois à la tête d'une entreprise avec plein de personnes qui se déplacent en France pour enregistrer et conserver tous les souvenirs de toutes les personnes en France.
Eh bien, super, bravo en tout cas pour tout cela.
Merci à vous, Margot Doraté. Ça s'appelle Radio Trombine. Donnez-nous de vos nouvelles. Il y a peut-être quelque chose avec Reliez-vous. Là, on vous retrouvera.
En tout cas, si vous aussi, vous avez envie comme ça de venir présenter votre entreprise dans La France Bouge, eh bien, c'est très simple. À une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats, tous de nos candidats, en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Dany Rabillet, vous êtes le directeur général d'Akena. Vous êtes notre grand témoin du jour. Vous restez encore avec nous quelques minutes pour la suite et la fin de votre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, elle bouge cette France et on en parle toujours avec notre témoin du jour, Dany Rabillet, qui est le directeur général d'Akena.
Et demain, au travail, car notre monde change, nos entreprises s'adaptent. Comme vous, Stéphane Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur des Copains de Bastien. Copains de Bastien, ça existe depuis décembre 2020. Et demain au travail, pourquoi ? Parce que grâce à vous, vous visez la réinsertion professionnelle à travers les métiers gourmands comme le chocolat. C'est très sérieux, je crois que vous vous êtes aidé d'une plateforme, pour la cité, c'est Leak and Out, pour offrir des parcours d'insertion à des personnes qui sont sorties du chemin traditionnel. C'est un peu ça. À qui vous vous adressez exactement ?
Complètement. Alors effectivement, on travaille avec, en partenariat avec LinkedOut. Donc il y a une plateforme qui permet aux personnes éloignées de l'emploi d'être mis en contact et en réseau avec des entreprises. Parce que leur constat, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas de réseau, c'est très difficile de retrouver un emploi. Et moi, mon projet, c'était, ça vient de mon petit garçon, donc Bastien, qui il y a un an et demi m'a demandé pourquoi est-ce qu'avec mon entreprise, puisque j'étais dans l'informatique, je ne donnais pas un travail à ses copains des rues. Et donc, il m'a fallu quelques mois pour réussir à ramener cette problématique de donner un emploi à quasiment tout le monde, ou en tout cas à tout à chacun, à travers un métier qui permet d'être revalorisé, de reprendre confiance en soi et surtout de rebondir vers un emploi stable et pérenne dans la durée.
Et comment vraiment on s'y prend de façon concrète pour qu'on arrive à bien comprendre le parcours de réinsertion ?
Alors l'idée, ça va être, donc on travaille entre autres avec l'Atelier des Chefs, qui est aussi une plateforme digitale de formation et préparation au CAP. Et donc on ouvre là dans un mois notre première boutique labo dans lequel donc on va fabriquer du chocolat de la fève de cacao jusqu'à la tablette, donc 100% sur place dans Paris, avec un premier canal de distribution donc qui va être le magasin. Et dans cet atelier-là, on va donc accueillir des personnes aujourd'hui recrutées par LinkedOut en CDI directement et les former à ces métiers de fabrication de chocolat. Donc tout le premier travail de la fève à la tablette et puis ensuite tout le métier plus traditionnel du chocolatier.
Alors, qui sont ces personnes ? Est-ce que vous avez déjà des exemples ? Vous avez monté votre structure en décembre 2020. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont déjà retrouvé le chemin de l'emploi grâce à vous.
Alors, on a quand j'ai commencé à travailler sur la plateforme LinkedOut, donc moi j'ai un passif autour de l'informatique. Et donc, je ne m'attendais pas à trouver des gens avec ces compétences-là. Donc, j'ai regardé sur la plateforme pour déjà avoir un petit peu le type de profil pour ce projet autour de la chocolaterie. Et j'ai entre autres découvert qu'il y avait donc Dany, un jeune de 28 ans qui est issu de l'immigration et qui a enchaîné de galère en galère quand il est arrivé en France et qui n'arrivait pas à trouver un job ni à finir son parcours d'études. Et quand j'ai vu son parcours dans l'informatique, je me suis dit qu'en 2020-2021, on peut pas être dans l'informatique et pas avoir de travail, ça n'existe pas. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai fait un premier échange avec lui au téléphone, puisqu'on était encore en plein confinement. Et puis le feeling est tout de suite passé. Et on s'est projeté tous les deux sur un horizon de 3 ans, en se disant ok, qu'est-ce que tu veux faire à 3 ans et comment je peux t'accompagner. Et de cheminement en cheminement, on a conclu un contrat autour d'un apprentissage pour que lui puisse terminer son parcours d'études. Et sur le temps qu'il a en entreprise avec moi, je le forme sur deux sujets, à la fois les technologies Microsoft qui sont mon passif à moi, donc j'ouvre mon réseau et je fais en sorte qu'il puisse monter en compétences sur ces domaines-là. Et en même temps, il assure toute la partie digitale de notre entreprise et de notre projet.
Pourquoi à la base vous êtes lancé sur le chocolat ? Parce que c'est un savoir-faire finalement assez simple, mais avec un résultat noble, tout le monde connaît, c'est partagé par tout le monde ?
Exactement, l'idée de départ était autour de la biscuiterie. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de limites. Alors moi, c'est pas du tout mon métier, donc je suis parti de l'idée et puis je l'ai creusé en tant qu'entrepreneur jusqu'à arriver au moment où il me fallait quelqu'un du métier. Donc je me suis associé avec Arnaud Normand, qui est chef pâtissier et chocolatier, et qui au travers de nos discussions m'a dit « Ok, bon, si tu veux que je t'accompagne sur de la pâtisserie et du biscuit, ça me plaît bien, donc on y va. Mais pourquoi on ne ferait pas du chocolat ?» Et là, je lui ai dit « Bah attends, moi, j'ai plusieurs problèmes avec le chocolat. Le premier, c'est que le chocolat, ce n'est pas très propre. Parce que ce qui se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire, au niveau de la récolte du chocolat et la misère que ça octroie, je lui ai dit « Moi, je ne peux pas faire du solidaire à Paris et générer la misère ou cautionner la misère dans ces pays. » Puisqu'il faut savoir que le cacao pousse à 10 degrés au nord-sud de l'équateur, et c'est à peu près tout. Donc si vous regardez un point de vue géographique, vous tombez sur des pays qui sont plutôt en voie de développement et où les droits de l'homme et du travail sont pas forcément respectés.
Dany Rabillé, vous êtes le directeur général d'Akena. Insérer, aider à la réinsertion des personnes qui sont peut-être sorties du chemin, parce que ça peut arriver, des accidents de la vie. Quel est votre regard en tant que patron d'entreprise?
L'idée et l'engagement est exemplaire dans ce que je viens d'entendre. Effectivement, on est peu sollicité ou pas encouragé à aller vers ce genre de démarche.
Ça vous tenterait, vous, d'aller vers ça?
Pour être honnête, on ne sait pas forcément comment faire, mais on parlait tout à l'heure de notre difficulté à recruter et à prendre aussi du personnel qui n'a pas la qualification et de l'accompagner en formation. Le profil de départ, il est encore plus...
Vous sentez-vous comme chef d'entreprise pas assez aidé pour aller chercher des publics qui sont loin de l'emploi et qui pour autant pourraient être vecteurs de développement important pour des entreprises comme la vôtre?
Alors pas assez aidé, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, on ne sait pas forcément comment aller toucher
ces
populations.
Vous ne savez pas comment faire, tout simplement. Et vous pourriez peut-être vous mettre en relation, Stéphane Pessillon, vous pourriez peut-être justement solliciter des entreprises pour pouvoir les aider à aller vers cette réinsertion de personnes?
Tout à fait. Alors c'est là que la plateforme LinkedOut aujourd'hui est très très bien faite, parce qu'en fait ils sont pas uniquement là pour vous proposer des candidats comme ça, comme un cabinet de recrutement, mais en fait chaque candidat est accompagné par un coach. Et ensuite LinkedOut vous accompagne aussi donc dans l'avant et dans l'après l'embauche. Et moi, c'est ça qui était important, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le rêve utopique de pouvoir prendre quelqu'un dans la rue et lui donner un job, mais c'est pas si simple. Et
puis, il y a tout cet accompagnement qui doit être fait en amont. Merci à vous, Stéphane Pétillon. Je rappelle que vous êtes le fondateur des Copains de Bastien. C'est la fin de votre émission, Dany Rabillé. Merci d'être venu dans La France Bouge. Vous êtes le directeur général d'Akena.
Et demain, émission spéciale de La France Bouge. On sera en direct de l'usine Renault de Cléon. On sera en Normandie. C'est dans cette usine que sont fabriqués les moteurs électriques pour Renault. Et bien, tiens, justement, à quoi ressemblera Renault? Interview exceptionnelle de Jean-Dominique Senard. C'est le patron, tout simplement, de Renault-Nissan, l'un des plus grands patrons français. Ce sera notre invité demain en direct.
À demain, Emmanuel. Restez sur Europe 1 dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.